chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission interactive. À votre avis sur VOA Afrique, Nathalie Barge pour vous accompagner dans ce débat. Kinshasa boycotte la conférence des donateurs sur la RDC, lors de laquelle les USA, les États-Unis ont annoncé 67 millions supplémentaires donc pour la RDC. Qu'en pensez-vous? Quelle analyse faites-vous du différend entre le gouvernement et la communauté internationale? Ce sont les questions qui vous ont été posées sur le Facebook de VOA Afrique et nous allons continuer le débat avec vous en vous joignant par téléphone. Alors on rappelle que les donateurs internationaux ont annoncé aujourd'hui un montant de 528 millions de dollars américains pour soutenir l'acheminement d'une aide humanitaire dont des millions de personnes en RDC ont besoin de manière urgente selon l'ONU. Les annonces ont été faites donc lors de la conférence humanitaire à Genève, co-présidée par les Nations Unies, l'Union Européenne et les Pays-Bas. Et donc, effectivement, Kinshasa boycotte cette conférence. Kinshasa dit que l'état de la situation humanitaire est exagéré par la communauté internationale et que cela empêche les investissements commerciaux donc en RDC. Nous avons un premier auditeur en ligne, Jean-Luc.
Oui.
Oui. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, je m'appelle Jean-Luc Ndoua, je suis à Bujumbura, au Burundi.
Mm-hmm. Très bien, bonsoir. Comment allez-vous?
Ça va très bien.
On vous écoute, Jean-Luc.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec la RDC qui a refusé cette conférence des donateurs. Et vous savez très bien que ces donateurs qualifient la RDC d'un pays où la population est totalement frappée à ce qu'on qualifie la RDC d'un pays où le peuple a besoin d'aide humanitaire. Moi, je suis d'avis avec la RDC parce que les donateurs essaient de corrompre le pays parce que vous savez que la RDC bientôt on va entrer en période électorale et comme le pays se trouve dans cette période, les pays de l'Occident ou même les États-Unis d'Amérique essayent de corrompre ce pays pour accéder au sous-sol. Et vous connaissez très bien que le sous-sol de la RDC est tellement riche en coton et que même, vous savez que ça passe plus d'une trentaine d'années que la Monesco est là et que cette force onusienne, on ne sait pas de quoi il s'agit là-bas. On observe ici et là de guerre qui perdure encore et que la Monesco est là. Moi, je suis totalement d'accord avec la RDC parce que le sous-sol est tellement riche. Même l'Afrique peut vivre de la RDC. Donc, c'est une exagération pour qualifier la RDC que c'est un pays qui a besoin d'aide humanitaire. C'est une exagération, au fait.
Mmh. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour votre point de vue sur la situation en RDC, votre point de vue sur le fait que Kinshasa boycotte la conférence des donateurs sur la République démocratique du Congo. Nous avons Alphonse Mbouaki qui est en ligne, justement, en RDC. Bonsoir Alphonse.
Bonsoir Nathalie. Vous savez, votre gouvernement est méchant. Vous savez, c'est un crime de ne pas assister son peuple. Parce que le chef de mission humanitaire a sillonné partout, il a dit qu'il y a une besoin humanitaire. Alors pourquoi le pouvoir refuse de participer à cette conférence? Pourtant on a besoin d'argent. Donc moi je pense que ce gouvernement ne se sent pas dans la légitimité et compte tenu de la situation de la crise politique, c'est pourquoi il ne veut pas participer. Ben, il représente le pays dans cette conférence parce qu'il n'est pas dans la légitimité. Alors, si le gouvernement camoufle ça, dit qu'il n'y a pas un besoin, la communauté internationale exagère, c'est parce qu'il se sent, il a peur d'être discrédité par rapport aux élections qui arrivent, c'est ainsi qu'il est en train de dire que la communauté internationale exagère. Le rapport des humanitaires n'est pas biaisé, c'est une réalité. Donc le gouvernement doit s'assumer. Et d'ailleurs, nous attendons les élections pour la c'est un gouvernement criminel, incapable de gérer le pays. On a besoin d'argent pour sauver ces gens-là. À Nitour, il y a des morts, il y a ce besoin-là. Sur le Kamina Sabi, les gens sont déplacés vers l'Angola là. Et comment dire que la communauté internationale exagère, hein? Donc c'est une réalité, on a besoin d'argent là. Même si nous ne participons pas, on peut prendre cet argent et l'utiliser par d'autres canaux que le pouvoir.
Un grand merci, Alphonse. Merci beaucoup, Alphonse, pour votre point de vue sur la situation dans votre pays. À très bientôt, Alphonse. On a l'ébéni Moïse qui est en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Oui, c'est Moïse.
Oui, c'est exactement Moïse.
Comment allez-vous?
Oui, ça va très bien, madame, c'est Abidjan.
Alors, vous vous demandez sur le Facebook de VO Afrique si l'argent va effectivement aider donc ces réfugiés ou servir à autre chose.
Oui, effectivement, on a regardé dans beaucoup de pays, il y a des crises. Évidemment, ces ONG viennent des salles de bureaux, ils se prennent pour des gens qui veulent sauver les populations qui sont en situation de détresse. Or, ce qu'on remarque, il y a des expatriés qui viennent, qui travaillent au nom de ces ONG et qui vivent dans le luxe. Et comme ça, bon, on montre à la télévision, comment on appelle l'ampleur des dégâts qui causent les situations dans les pays. Mais effectivement, l'argent rentre, mais ça ne va pas dans les poches des réfugiés. C'est ce qu'il a constaté.
Et vous dites sur le Facebook de VO Afrique, l'Afrique n'est plus une vache à lait. Vous pouvez développer cela?
Oui, exactement, madame. J'ai remarqué il y a beaucoup de situations qui se passent au niveau de l'Afrique ici. Et certaines organisations internationales, ils viennent même des crédits, ils viennent sur le continent pour se faire des sous, en passant par certains canaux qui ne sont pas un peu officiels. Et ces jeunes viennent, on connaît leur mode d'opération. Et quand il y a des situations, je dirais, dramatiques, ils en profitent de ça pour venir jouer, je dirais, le Père Noël.
Vous auriez besoin de la garantie que l'argent, effectivement, il aille directement aux populations, c'est cela? C'est votre souci?
Oui, l'argent ne va pas directement aux populations, ça va servir à autre chose. Et ils vivent dans le luxe, ces expatriés. On en a un peu en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas de crise, mais ils sont là. Ils ont toujours l'argent à leur disposition. Et ils vivent dans les villas de luxe. Pourquoi?
Merci beaucoup, Moïse, pour votre témoignage et votre point de vue. On a Mamadou Ali Mousso qui nous appelle de je ne sais quel pays. Mamadou, bonjour, vous m'entendez?
Oui.
Vous êtes dans quel pays?
Je suis à Khartoum, au Soudan.
Au Soudan, formidable. On vous écoute. Comment allez-vous déjà?
Ça va très bien, je vais très bien. Et vous?
Ça va très bien. Et vous êtes de quelle nationalité à l'origine?
Nationalité guinéenne.
Guinéen au Soudan. Alors on vous écoute.
Oui. J'aimerais savoir quelle est la position des réfugiés congolais par rapport à l'action humanitaire.
Vous aimeriez connaître la position des réfugiés eux-mêmes? Effectivement, vous voulez dire, en effet, on peut imaginer que les réfugiés eux-mêmes ne diraient pas non sur l'argent pour les aider, non?
Oui.
Mais il est difficile de connaître leur position, effectivement, parce qu'on n'a pas, à ma connaissance, fait d'interview pour savoir ce que les réfugiés pensent de cela. C'est une bonne question que vous posez.
Oui.
Et donc, qu'est-ce que vous pensez du fait que Kinshasa boycotte la conférence des donateurs, justement, de cet argent hein, pour aider les réfugiés? Qu'est-ce que vous en pensez? Allô, Mamadou, vous m'entendez? Ah, Mamadou n'est plus avec nous, mais c'était un grand plaisir de vous parler à partir du Soudan. On a Yao Marcelin en ligne.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous les deux de la VO Afrique.
Bonsoir, comment allez-vous?
Je vais très bien, madame.
On prépare le week-end?
Oui. On s'attend là, cela.
On vous écoute à partir d'Abidjan, vous êtes, hein?
Ok, merci. Bon, concernant, moi, parce que l'idée des donateurs, l'idée est louable et même salutaire, parce que la RDC est dans une situation de crise, ça, il ne faut pas le nier. La RDC est constamment ébranlée par les crises, intercommunautaires et autres. Franchement, cela engage beaucoup les déplacés. Donc, forcément, il y aura des besoins d'ordre humanitaire. Et ça, c'est d'une évidence que les organisations internationales fassent quelque chose. N'attendons pas l'avis de M. Kabila, M. Kabila est légitime. Donc, parce que vous n'allez pas demander à un monsieur qui cherche à s'approcher au pouvoir, il n'a qu'un seul destin. Comment faire pour s'approcher au pouvoir? Donc, c'est pas obligé de passer par donner la. C'est pas que vous. C'est pas qu'on n'est pas obligé de requérir l'avis de M. Kabila pour faire des dons aux choses, aux besoins de déplacer des victimes de conflits. Mais M. Kabila est dans une logique de s'accrocher au pouvoir. Donc c'est tout à fait normal. Moi, sa réaction, sa position ne m'étonne pas. Parce que pour l'instant, l'homme, il est tous africain. Je ne suis pas congolais, je suis ivoirien, mais la situation à RDC, c'est tout le monde sur la situation. Rien n'est nouveau à RDC. On connaît vraiment les ambitions de M. Kabila. Ça n'est pas lui demander de s'impliquer dans une quelconque aide humanitaire. C'est trop lui demander. Quel est le seul dessin? Franchement, raccrocher au pouvoir. Ça n'est pas lui demander. Il n'a aucun lien là. Il ne suffit pas de satisfaire la population. D'ailleurs, la population est son ennemi. Il ne s'est jamais battu pour la population. Il s'est battu pour lui et sa famille. C'est pour ça ici au pouvoir, il n'a pas quel intérêt pour la population à se dire la population. Il a suffisamment prouvé après pour ça d'aller au pouvoir. Qu'est-ce que M. Kabila a apporté au peuple congolais, à part la crise et la misère?
Marcelin, merci beaucoup pour votre point de vue. Et il faut dire aussi qu'il y a donc eu aujourd'hui une déclaration du secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, Jan Egeland, qui dit être déçu que trop peu de pays aient envoyé un véritable message d'espoir aux millions d'enfants, de femmes et d'hommes congolais qui ont désespérément besoin d'aide, a-t-il dit, alors que de nombreux pays ont accru leur soutien. Le montant estimé à 530 millions de dollars, annoncé aujourd'hui par les Nations Unies, serait loin d'être suffisant pour répondre aux besoins de 10,5 millions de personnes. 1,7 milliard de dollars sont nécessaires pour aider les populations en RDC, dit-il. Bien que nous nous félicitons des promesses faites aujourd'hui, la réponse est loin de correspondre aux besoins humanitaires, a déclaré Egeland. Les besoins ont plus que doublé depuis 2014, dit-il. Davantage de pays donateurs doivent aller de l'avant et ceux qui y contribuent déjà doivent en faire plus pour arrêter cette tragédie humanitaire, a-t-il ajouté. Le CNR demande également aux donateurs de veiller à ce que les promesses faites lors de la conférence soient immédiatement transformées en argent pour l'action. On a un autre auditeur en ligne. Jeshurun Traoré, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Comment allez-vous?
Je vais très bien. Et vous?
Ça va très bien, on vous écoute.
Oh, concernant le dossier du refus de la RDC de participer au bailleur de fonds, je pense que c'est une mesure pour moi à saluer. Étant entendu que en RDC, le gouvernement peine à asseoir son autorité sur toute l'étendue du territoire et qu'on a les interarmées qui sont un peu partout. D'autre part, c'est un gouvernement totalement répressif qui empêche la liberté de s'exprimer. Et je pense que c'est un acte de prudence que de ne pas mettre entre les mains de ce gouvernement de l'argent public qui sera par la suite dilapidé.
Mais c'est bien Jeshurun Traoré qui parle ici?
Oui, madame.
Oui. Alors, je vais quand même lire le propos que vous avez, donc le commentaire que vous avez écrit sur notre Facebook, parce que je ne sais pas si ça correspond vraiment à ce que vous dites. Il est intéressant. Vous avez donc écrit « Il est mieux Ainsi, à quoi sert-il d'endetter davantage un pays quand le gouvernement ne peut exercer pleinement sa compétence sur toute l'étendue du territoire? Par ailleurs, peut-on contraindre un tiers à s'endetter quand il dispose suffisamment de ressources pour se prendre en charge? Que dire de l'utilisation de ces fonds au seul profit des gouvernants et des multinationales à qui sont attribués les marchés au détriment des collectivités territoriales et des entreprises locales? Voilà, donc ça c'était votre commentaire. Vous voulez le développer un peu plus?
Oui, je le dis parce que nous savons que le gouvernement Kabila était un gouvernement... voilà, M. Kabila qui est un président et qui, au cours d'un conseil des ministres, lorsque un ministre prend la parole, il demande à son chef de cabinet de lui dire quel est le nom de ce ministre qui parle. Voilà un monsieur qui gouverne tout un pays et qui ne connaît même pas le nom des membres de ce gouvernement. Je pense qu'il y a un manque de responsabilité. Et à mon sens, c'est quand même prendre un risque que de mettre entre les mains de ce gouvernement les fonds pour le bien-être de la population. Je pense que ces fonds seront plutôt dilapidés. Mmh. Et donc, en optant de ne pas participer à ces fonds, je pense que c'est un acte salvateur qui garantit à peu près
le droit de la population. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeshuroun. On a un autre auditeur en ligne. On a Emmanuel Rougaï. Emmanuel Rougaï. Allô, allô. Allô, allô. Emmanuel. Non, ce n'est pas Emmanuel, c'est Gabriel. Gabriel.
Ah oui, vraiment, merci.
Bonsoir Gabriel. Alors vous avez écrit « Longue vie à ses donateurs ». Vous êtes où Gabriel?
Je suis à Luanda.
À Luanda, on vous écoute.
Oui, merci vraiment. Pour moi, je trouve ça un peu, permettez-moi le terme, immoral, refuser de telles aides et une mauvaise foi de la part du gouvernement congolais, minimiser la souffrance de ces peuples. En fait, c'est un peu normal, comme je venais de dire là-bas, parce qu'au Congo, il y a un problème. La fonction président en soi a perdu vraiment son sens étymologique. Kabila n'est pas vraiment au pouvoir pour le bien-être des Congolais, plutôt, il n'est là parce que Kagame ne peut pas physiquement diriger deux États. Raison pour laquelle lui est là, jouant le rôle du préfet, faisant tout pour le profit du Rwanda et le mal, la souffrance des Congolais ne lui dit absolument rien. Donc, je profite vraiment, si vous pouvez me permettre, du microphone de la Voix de l'Amérique, implorer la miséricorde des multinationales et de tous ceux qui sont susceptibles de propulser les politiciens au pouvoir. Il n'est forcément pas nécessaire de mettre à la tête de l'État un mercenaire politique pour tirer vraiment les dividendes. Donc, vraiment, il y a pitié. Je ne peux pas monopoliser la parole. Vraiment, merci à la Voix de l'Amérique.
Un grand merci à vous, Gabriel. On a un autre auditeur en ligne. Haruna Touré.
Allô?
Traoré.
Allô, allô?
Bonsoir, comment ça va?
Ouais, moi je vais bien, et vous-même?
Ça va très bien, à vous la parole.
Bien. Ok, donc comme je disais tantôt, il y a un proverbe qui dit que il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est que le différent il y a entre la communauté internationale et les autorités de Kinshasa, c'est que les autorités n'ont pas du tout envie d'organiser des élections. Comment se fait-il qu'il y a une conférence de donation afin de financer les campagnes présidentielles? Normalement, tous les gouvernements doivent être heureux d'avoir une campagne pour financer leurs élections. Bon, si vous voyez que le gouvernement
Haruna, toutefois, l'argent dont on parle n'est pas du tout pour financer les élections. Et d'ailleurs, la RDC reconnaît qu'elle a besoin d'argent pour financer les élections. Là, on ne parle pas du financement des élections. On parle de la situation humanitaire en RDC, d'une aide à apporter aux réfugiés et aux déplacés, en fait.
Ah, d'accord. OK. Bon, donc, concernant ce financement-là, et puis en plus, l'aide pour les réfugiés, normalement, chaque gouvernement, si je trouve dans une situation irrégulière et qu'il y a une conférence de nation afin d'aider les réfugiés, normalement, ça doit être un plus. D'ailleurs, l'aide doit être la bienvenue afin de façonner et puis d'essayer aussi de donner une opportunité pour les réfugiés pour qu'ils puissent s'éteindre aux différents milices afin de porter préjudice au gouvernement. Moi, je pense que normalement, la conférence ne devrait pas être guidée par le gouvernement de la RDC.
Merci beaucoup, Aruna, de vous être exprimé. À bientôt. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nous avons Steve Boko. Steve Boko qui est intéressé par le sujet. Steve, comment ça va?
Oui, bonsoir, madame la journaliste.
Comment ça va en Côte d'Ivoire?
Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu.
On vous écoute.
Ok, bon, pour le référendum de la RDC, moi je vois que cela, j'ai demandé d'abord même au chef de l'État de chercher à apporter la paix avant de pouvoir organiser quoi qu'en soit dans ce pays. Parce que rien ne vaut que la paix. Vous voyez, ce chef d'État, même si on dit le référendum ne sert à rien pour le moment dans ce pays. Moi, selon moi, il doit falloir qu'il se milite un peu pour la paix que d'organiser ou d'injecter les biens publics dans ses futilités, selon moi. Donc, seule la paix peut résoudre le problème pour le moment qu'il doit organiser quoi que ce soit.
Merci beaucoup. Un grand merci, Steve, pour vous être exprimé sur nos ondes. Il y a le commentaire de Moïse Valérie Roubenga qui est à Goma. Je ne sais pas si on peut le joindre. Ça serait intéressant parce qu'il est à Goma. Hein. Bien que l'aide humanitaire n'ait toujours pas résolu les souffrances de nos compatriotes, dit-il, je trouve scandaleux pour nos autorités de toujours boycotter cette conférence. Toutefois, je me demande toujours pourquoi les pays amis, surtout les occidentaux, ont toujours attendu qu'il y ait une crise pour penser à nous aider. Les 65 millions américains promis par Washington, $65 millions promis par Washington, ne devrait-il pas avant tout relancer les efforts pour la paix en milieu rural en favorisant la réhabilitation des routes, des dessertes agricoles et la santé, tout comme l'éducation? C'est le point de vue de Moïse Valérie Roubenga qui est à Goma. On a un autre auditeur en ligne, Diara Kanyoumé.
Bonsoir Nathalie, bonsoir toutes les rédactions.
Bonsoir, à vous la parole.
Ok, merci de me donner la parole. Nathalie, je pense qu'à mon avis, vraiment, le gouvernement du RDC ne devrait pas écouter cette initiative. À mon avis, je pense que vraiment le Congo est dans un grand problème d'aujourd'hui par rapport à la crise politique. Donc si ISRC dit que non, ils vont donner au moins aide pour que non, la paix n'a qu'à revenir dans le pays. Je pense que c'est pas mal. Donc à mon avis, je pense que vraiment, tant que la communauté internationale et l'ONU, si elle n'est pas fait au moins rapidement pour trouver solution rapidement dans cette crise politique, je pense que vraiment M. Kabila ne devrait pas quitter le pouvoir. Parce que c'est grâce à lui d'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés dans le pays, c'est à cause de lui. Donc en tant que le gouvernement est corrompu par rapport à Kabila, je pense que vraiment il ne peut pas tomber d'accord avec cette sénateur, à mon avis.
Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Je vais lire quelques commentaires. Celui d'Emmanuel Rougaillé, dont j'ai parlé tout à l'heure, il a écrit « La RDC a raison de ne pas participer à cette conférence parce que les donateurs sont les grands destructeurs de la RDC, pense-t-il. » Tidiane Botegueba, lui, dit « La décision qu'a pris le gouvernement congolais est salutaire. Sinon, pourquoi une aide humanitaire obligatoire » dit-il. « Dans tous les cas, je donne raison au gouvernement congolais de ne pas vouloir coopérer avec des ONG qui ne cessent de sortir des rapports biaisés et des gouvernements qui veulent continuer à nous coloniser. » Pardon, c'était donc Tidiane Botegueba qui est à Douala. Chères auditrices, chers auditeurs, un grand merci à vous tous. Un grand merci également à Cheikh Thierrot et à Dan Crafton à la production. Très bonne soirée à vous et surtout très bon week-end. À très bientôt. Au revoir.